Il y a eu un animé incontournable et il y a eu un très mauvais film. Où se situe la série live Netflix? On débriefe la première saison de Avatar, le dernier maître de l'air, avec la rédac Allociné.
Moteur!
Parlons maintenant de cinéma.
C'est un scandale!
6, première.
Action!
Comme disaient les philosophes, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Aang et ses compagnons l'ont bien compris dans Avatar, le dernier maître de l'air, la série qui cartonne en ce moment sur Netflix. Alors on en pense quoi de cette adaptation live qui arrive quelques mois après le triomphe de One Piece? Est-elle culte comme l'animé ou nulle comme le film? Est-ce qu'elle nous laisse de glace ou est-ce qu'elle nous enflamme? On vous dit tout dans ce nouveau podcast Spotlight sur l'univers, les différentes versions et surtout sur les 8 épisodes de la saison 1 avec les maîtres des étoiles Allociné et spécialistes d'Avatar que sont Shaima Tounsi, Constance Matthews et Andou Raminosson. Bonjour à vous.
Bonjour.
Salut. Bonjour.
À la réalisation de ce podcast, Lauriane Cladec. Je suis Johan Sardet. On débriefe Avatar, le dernier maître de l'air. Action.
La nation du feu a tout détruit sur son passage. Pour que le monde ait une chance de survivre, il va avoir besoin de Aang.
Ouais, je vois. Il est doué, ton sauveur du monde.
Alors déjà, il faut expliquer que Avatar, ce n'est pas Avatar. Qui veut expliquer ça? Parce qu'il y a même l'un des comédiens du film s'est trompé en allant auditionner. Oui. Il y a cette anecdote qui est quand même assez formidable.
C'est le commandeur Zhao.
Ken Leong.
Ken Leong. Il a cru qu'il avait auditionné pour Avatar 3, du coup, j'imagine. Avatar, le film de James Cameron. Et en fait, non, il s'agissait effectivement de Avatar, le dernier maître de l'air.
En fait, il faut savoir que les acteurs qui ont passé le casting ne savaient pas pour quelle série Netflix ils allaient jouer. Et ils l'ont su au moment d'avoir le rôle, quoi. C'est-à-dire que l'interprète de Aang, qui s'appelle Gordon Cormier, on lui a juste dit « tu joues un gamin de 12 ans » et c'est tout. Et il a découvert le jour J et sa réaction est incroyable. Je vous invite à voir la vidéo, elle est vraiment trop mignonne.
Et qu'il allait devoir se raser la tête pendant plusieurs mois. Mais on va en parler du casting. En fait, je vous posais la question sur Avatar, parce que est-ce que selon vous, parce que donc vous avez, je vais quand même préciser, vous avez été biberonné avec ou biérisé avec en fonction de votre âge. C'est-à-dire que Shaimé, ici, tu l'as découvert à l'âge de 12 ans à peu près. Constance,
moi, je l'ai découvert à 21 ans pendant mes études.
vous étiez étudiant, était, voilà, un peu plus vieux. Mais en tout cas, vous connaissiez l'univers d'Avatar, là où peut-être pour plein de gens qui débarquent sur Netflix se disent « Ah, bah, y a une série Avatar avec des navis. » Est-ce que selon vous, peut y avoir cette erreur de lecture pour des gens qui ne connaissent pas l'univers?
Ah oui, bah, à partir du moment où ça a le même titre, je pense que les gens peuvent se tromper de toute façon. Mais après, au bout de quelques secondes, on remarque que ça ne se passe pas dans l'eau, qu'ils ne sont pas tout bleus. Il y a quand même des indices qui te disent que non, en fait, ce n'est pas la même chose.
Il y a quand même un peu d'eau.
Il y a de l'eau, mais c'est pas, il n'y en a pas autant que dans Avatar 2.
Voilà, bah, du coup, on n'a pas pitché la série.
J'allais y venir. Ah. Du coup, Avatar, c'est quoi?
Bah, ça se passe dans un univers avec 4 nations, donc le feu, l'eau, l'air et la terre, donc c'est les éléments de la nature. Et à un moment donné, donc il y a la nation du feu qui décide de prendre le pouvoir et de détruire les autres. Sauf qu'il y a un petit être qui s'appelle l'Avatar, qui a le pouvoir de contrôler les 4 éléments, qui est censé justement créer une sorte de balance dans l'univers.
Oui, c'est ça, équilibre, une sorte équilibre.
Dans l'univers. Ah oui, parce que t'es bilingue,
la balance. Je suis en anglais, je suis désolée. Une sorte d'équilibre dans l'univers, sauf que le jour où la nation de l'air dont il fait partie a été attaquée, il a eu peur et il s'est retrouvé enfermé dans un iceberg pendant 1000 ans. 100 ans. Ok, pardon.
Comme un œuf.
Pendant 100 ans. Et du coup, quand il s'est réveillé 100 ans après, il a vu que la nation du feu, du coup, avait détruit les nomades de l'air. Il est le dernier de son espèce. Et il doit, du coup, sauver les autres et empêcher la nation du feu de tout détruire.
Et donc, on suit l'apprentissage à la fois de ce jeune homme, parce qu'il va devoir. Au départ, il maîtrise l'air. C'est donc parce que le titre, c'est le dernier maître de l'air.
En gros, quand il apprend que ça va être lui qui est l'avatar, il maîtrise qu'un seul élément et l'avatar, c'est le maître des 4 éléments. Donc là, oui, la première saison, c'est l'apprentissage de l'eau. Et ensuite, du coup, c'est dans les autres saisons qui vont arriver, normalement, il va prendre la terre et le dernier sera le feu.
Donc là, tu es déjà sur la série Netflix. Mais avant ça, on le disait, il y a eu un animé culte sur lequel il va falloir revenir. Parce que moi, je le dis très honnêtement, je connaissais l'iconographie d'Avatar, je connaissais Aang avec le crâne rasé, sa flèche sur le crâne. Je voyais qu'il y avait des gens qui manipulaient du feu ou de l'eau par-ci par-là, mais ma connaissance se limitait là. Alors que pour vous, ça a vraiment été un moment marquant de votre jeunesse ou de votre période étudiante. Et pourquoi il est culte, cet animé?
Déjà, moi, j'avoue que quand j'ai découvert l'animé, j'en ai pris vraiment plein la gueule. C'est, j'ai trouvé cet animé génial. À la fois, déjà dans le milieu, dans l'univers dans lequel se déroule l'histoire, parce qu'il y a un côté un petit peu terre du milieu, avec les différentes nations. Et en fait, c'est vraiment une série cool. En fait, c'est très stylé avec des styles de combat, des bastons qui en mettent plein de la vue.
En fait, ce qui était cool, c'est aussi que ça reprend des légendes dont on a plus ou moins entendu parler, et ça les retransforme et ça leur donne des pouvoirs magiques. Il y a beaucoup de folklore chinois dans Avatar. Et puis le fait de prendre les quatre éléments où chaque nation a le caractère de son élément, où par exemple celui qui contrôle la terre est un peu têtu comme la pierre, celle qui contrôle l'eau est très empathique parce qu'elle arrive à soigner avec l'eau. En fait, ça prend des clichés qu'on connaissait et ça les transforme en légende, et c'est ça aussi qui est un petit peu, enfin qui est assez chouette à voir, parce que c'est un peu une série, moi en tout cas mon sentiment c'était la série que j'aurais bien voulu faire. C'est un truc que j'ai, enfin je me prétends pas du tout réalisatrice ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose où en fait qui me parlait, dans le sens où je trouvais que ça prenait des clichés et ça les transformait en légende, et ça c'est chouette.
Et tu le disais avant qu'on commence ce podcast, c'est que c'est aussi une série animée qui prend pas les enfants pour
des crétins. Ouais.
Pour des crétins. Ouais, j'allais utiliser un autre mot, mais ce mot est mieux.
Voilà, crétin. C'est qu'un animé. Enfin, on a souvent ce cliché que les dessins animés c'est uniquement pour les enfants, du coup faut faire des trucs débiles et tout ça. Et en fait non, c'est que une histoire pour les enfants peut aussi parler aux adultes. Et Avatar, le dernier maître de l'air, prend ce pari, en fait. C'est qu'on n'est pas obligé de tout surexpliquer, on n'est pas obligé de faire le méchant, vraiment méchant, qui est vraiment pas content et tout ça. Et puis, enfin, il y a vraiment une subtilité qui est agréable, tant pour les enfants que pour les adultes. Et ça, c'est chouette.
Notamment dans la création des personnages, où, du coup, en fait, on retrouve vraiment des personnages qui, par exemple, font penser à des personnages de la pop culture. Je pense, par exemple, à Zuko, qui est mon personnage préféré. Je suis passé dans les questions, mais bon, Zuko, pour moi, c'est, donc, c'est le fils de l'empereur Ozai. Et donc, en fait, ce personnage, en tout cas dans l'animé, j'ai tellement aimé tout son arc narratif, parce qu'il commence par un côté très coléreux, très limite, juste on a l'impression qu'il est méchant pour être méchant. Et après, au fur et à mesure, on découvre tout ce qui est tout son passif, et en fait, tout ce qui explique. Et en fait, il a l'enjeu, pour moi, il a l'enjeu le plus important, c'est que finalement, c'est un petit peu comme Anakin et Luke Skywalker, c'est-à-dire, c'est pas celui qui est censé apporter l'équilibre qui va finalement peut-être l'apporter, sans spoil. Mais voilà.
Un peu quand même. Hein, un petit peu.
Et toi, Shaima, donc tu l'as découvert plus jeune,
il y a 20 ans. Souvenir. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en voyant la série de Netflix, et notamment le dernier épisode, Madeleine de Proust, c'est-à-dire que je me suis souvenu de scènes du dessin animé, notamment celle avec les deux poissons, la lune et je ne sais plus ce que c'est d'autre. J'ai revu la scène dans ma tête et après, j'ai regardé le dernier épisode de l'animé, donc de la saison 1, et c'était limite du plan par plan. Et ça m'a fait plaisir parce qu'il s'adresse vraiment aux fans. Bon, ils ne sont pas tous contents de cette adaptation, mais c'est vraiment respectueux du matériau de base. Après, de ce que j'ai compris, le personnage de Hank dans le dessin animé est plus enfantin. C'est vraiment quelqu'un qui aime faire des bêtises. L'adaptation de Netflix est un petit peu plus sérieuse.
Complètement.
Mais après, on n'oublie pas que c'est des enfants de 12, 13, 14 ans. Donc même si la série d'animation s'adressait surtout aux enfants et que ça pouvait plaire aux adultes, pour moi, c'est avant tout un dessin animé pour enfants, quoi. Netflix a voulu en faire quelque chose de plus adulte, voilà.
Mais n'allons pas trop vite, car la série a donc duré animée 3 saisons de 2005 à 2008. On précise aussi que c'est une série Nickelodeon et une série américaine. On pourrait croire, quand on dit animée aujourd'hui dans le langage commun, ça veut dire série japonaise. Donc c'est une série américaine. Elle dure donc jusqu'à la fin des années 2000. Et puis en 2010, arrive un film, une adaptation live, qui est considérée comme un très mauvais film.
Pour certains, il est un mythe. Pour d'autres, il est l'élu qui rétablira l'équilibre dans un monde en guerre. Et certains sont prêts à tout.
Est-ce qu'il mérite ce statut de purge infâme ? Film signé M. Night Shyamalan, donc réalisateur de Sixième Sens, Incassable, Split, entre autres. qu'il a tenté d'adapter un univers qui n'était pas son univers à lui, en tout cas pas un univers original, mais un univers qu'il a découvert, je crois, grâce à sa fille à l'époque. Qu'est-ce qu'on en pense de ce film de 2010 ? Très mal noté sur Allociné.
Déjà, je tiens, maman, si tu passes par là, désolée de t'avoir poussée à aller le voir au cinéma avec moi. Vraiment, elle a vraiment passé un très mauvais moment, mais vraiment adorable d'être venue, parce que j'étais trop fan en fait. Et je suis ressortie de là en me disant, mais vraiment, quel dommage, parce qu'ils avaient de quoi faire quand même 150 millions de budget, hein, 150 millions de dollars de budget, sachant que la série Netflix, c'est seulement 120 milliards.
Millions. Wow. 120 milliards, on vit beaucoup, beaucoup de films à 120 milliards.
Donc le film de Shyamalan a coûté 150 millions de dollars de budget, sachant que la série Netflix en a coûté 120 millions. Ils ont fait un truc beaucoup, beaucoup mieux. En fait, moi, ce qui m'a dérangé principalement, c'est le whitewashing. C'est-à-dire qu'ils ont choisi des acteurs donc blancs pour incarner des personnages asiatiques ou bien un indigènes, sachant que...
Bah non, il y avait Dev Patel.
Oui, bah c'est le seul.
Oui.
Sachant que toute l'histoire autour d'Avatar, c'est de rendre hommage à l'art chinois, enfin japonais, je crois que c'est plutôt chinois d'ailleurs,
plutôt, ouais.
Et notamment aux arts martiaux. Et là, ils ont tapé à côté, clairement. Et même, ça a manqué d'ambition, c'était pas très beau visuellement. J'ai pas un souvenir marquant de ce film, à part Dev Patel, qui pour moi, dans le rôle de Zuko, du coup, qui s'en sortait plutôt bien. Mais c'est le seul, quoi.
Après, alors pour remettre dans son contexte, je pense qu'à cette époque-là, 2010, c'était un peu la période où ils ne savaient pas vraiment... Enfin, en tout cas, ils se sont bien plantés pour tenter d'adapter les animés au grand écran, parce que dans la même période, il y avait Dragon Ball Evolution qui est sorti juste avant, genre en 2009. Et pareil, je pense que ces deux films où beaucoup de gens avec beaucoup d'attentes sur oh, on va voir en live action nos gros kiffs de jeunesse, et c'est vrai qu'on est tombé de très haut.
Donc on oublie cette purge,
oui.
On avance. Hein, voilà. Et là, on a le droit de parler de la série Netflix, puisque donc la série live, alors il y a quand même un petit lien avec le film de 2010, puisque les comédiens ont dit avant la diffusion, le film de Shyamalan est l'exemple parfait de ce qu'on ne veut pas faire avec cette série. Et selon vous, est-ce qu'ils ont réussi? Et alors, notamment donc, quelques chiffres intéressants. Première semaine de visionnage, première semaine de sortie sur Netflix, 153 millions d'heures de visionnage, et premier dans 93 pays, donc ce qui fait plus fort que One Piece, sachant que, on va dire, la manière la plus grand public et la plus marketing de le présenter, de dire c'est le nouveau One Piece. Alors déjà, est-ce que de dire c'est le nouveau One Piece, c'est juste ou pas juste selon vous? Et qu'est-ce que vous en avez pensé de cette série de Netflix?
C'est moi qui commence?
Vas-y.
Bah, c'est pas juste. Merci, voilà. Non, enfin... Il n'y a pas vraiment de rapport, enfin, il n'y a aucun rapport avec One Piece. C'est deux séries qui sont totalement différentes. Le seul point commun, c'est que c'est un dessin animé qui a été adapté en live action. Pour la série Netflix, moi, je suis un peu. Je sais pas, j'ai pas détesté. J'ai bien aimé. Mais je ne suis pas non plus aussi hypée. Enfin, je sais pas, je suis tiraillée.
Pourquoi ?
Parce que, c'est mieux que Shyamalan, mais pour moi, il y a encore des soucis dans le sens où ils veulent faire quelque chose de plus sombre. Mais moi, je trouve que c'est raté, parce que j'ai l'impression que c'est plus enfantin. Parce qu'il y a beaucoup de... On veut que c'est... Comme c'est un dessin animé, du coup, on veut que ça parle aux enfants. Du coup, il faut en faire des tonnes. Il faut peut-être un peu surexpliquer des trucs pour que absolument tous les enfants comprennent et disent pas « Pourquoi il est méchant, le monsieur, monsieur ?» C'est qu'on a besoin des fois de surexpliquer des choses qu'on a compris depuis 10 ans. On a besoin... Il y a les acteurs aussi qui font un peu de cabotinage. Enfin, il y a des plans ou des réactions où ils font des « Ah ouh !» Enfin, des choses où ils en font des tonnes. Et du coup, c'est un peu lourd. Ça fait un peu Teletubbies. Enfin, non, j'exagère. Non, je suis un peu... Pardon, là, je m'emporte.
Dans lequel, il y avait 4 nations aussi.
Oui, tu vois, il n'y a pas de rapport avec One Piece, mais avec Teletubbies.
Il y a un truc.
Du coup, ouais, c'est un peu dommage des fois dans le parce qu'ils en font des caisses avec les acteurs, et je trouve que ils auraient un petit peu plus de subtilité, ça aurait été sympa. Et les dialogues sont pas... Ouais. Non, mais là je commence par le négatif, puis après je terminerai avec le positif. Mais les dialogues sont un peu lourds aussi, quoi. J'ai pas de dialogue en tête.
Pour les dialogues, je trouve qu'ils sont toujours un peu à la recherche de la punchline tout le temps.
Ouais.
C'est-à-dire, chaque scène doit finir par une espèce de punchline. Et pour rejoindre ce que tu dis, le truc qui est très explicatif et qui est du coup un peu dommage de ne pas laisser le spectateur vivre l'histoire et comprendre par lui-même au fur et à mesure, c'est notamment rien que dans l'introduction. Où en fait, dans l'animé, le générique suffit seul, donc en 20 secondes où tu as la narratrice qui pose le problème, ce générique-là suffit amplement à poser les bases et les fondations d'une belle histoire, en fait. Que là, dans le premier épisode d'Avatar, ils se sont sentis obligés de mettre 20 minutes pour expliquer et montrer, du coup, la prise de pouvoir de la Nation du Feu. Ils se sont sentis obligés, dès le départ, de poser Aang et de lui dire dès le début, c'est toi qui vas sauver l'univers. Et en fait, du coup, on se retrouve directement avec un personnage qui est déjà unilatéral, qui est un espèce de super héros, voilà. Que, alors bon, toi c'est toi qui vas être le héros, et voilà. Alors que dans l'animé, c'est apporté quand même subtilement, c'est raconté du point de vue de Aang, qui du coup au début il ne maîtrise qu'un seul élément, comme on a dit. Donc en fait, toute la série va tourner autour de son initiation, et je trouve que cette initiation, c'est aussi le voyage du spectateur. Mmh. Voilà. Bon, après, du coup, je rebondis juste sur un truc positif. Déjà, c'est que moi, dans la forme, je mets facile 8-9 sur 10. Je trouve qu'ils ont réussi, déjà là où le film c'est qu'on l'a planté, c'est vraiment ça qu'on voulait voir, c'est des bastons, quand on avait vu l'animé, qu'on trouvait ça génial. Je trouve qu'ils ont réussi à garder l'esprit des bastons et l'esprit des éléments qui s'entrechoquent. Le style graphique aussi est pas mal, mais je mets juste un petit bémol, c'est sur le fond, du coup, où je trouve que ils ont tellement voulu adapter et transposer et faire du copier-coller, en fait, on va dire, tout en synthétisant un petit peu quand même, que ils ont fait l'inverse de ce qu'a réussi l'animé, c'est-à-dire là où Constance disait tout à l'heure que l'animé avait réussi à prendre des clichés et à les transformer en légendes. Là, je trouve qu'on a pris la légende de l'animé et en fait on en a fait un petit peu des clichés, notamment les personnages sont devenus un petit peu des clichés d'eux-mêmes, en fait.
Ouais, je suis assez d'accord.
Belle phrase, parce que c'est, moi, ne connaissant pas l'univers, c'est exactement ce que j'ai ressenti en découvrant l'univers et la série, donc c'est intéressant. Mais je donne la parole à Shaima.
Oula, alors moi, je suis vraiment, j'ai pas détesté, j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé ça très propre. Vraiment, le premier épisode, ça m'a accueilli. Il y a vraiment rien qui dépasse. Les costumes très très quali, très très beaux. Après, je l'ai vu avec pas mal de fonds verts, donc je l'ai pas revu depuis. Sachant qu'il faut savoir qu'ils ont fini la série la veille du lancement. Ça, c'est incroyable quand même.
Et juste pour préciser avant que tu reprennes, c'est qu'en fait, nous, voilà, en tant que journaliste, on reçoit donc ce qu'on appelle des screeners, c'est-à-dire des versions parfois non terminées des séries pour pouvoir les voir en avance et commencer à faire notre travail. Et donc, dans le cas présent, en fait, tu avais vu donc les épisodes pas finis, d'où le côté fond vert.
Exactement.
Qui ne sont plus dans la version finale.
Exactement. Surtout le premier épisode, c'était vraiment la foire au fond vert et au fond bleu. Donc, il fallait s'imaginer. Et malgré ça, je suis quand même rentrée dans l'univers parce que j'adore les acteurs. Ça m'a fait le même effet que sur One Piece. Ça se voit qu'ils sont fans, ça se voit à l'écran qu'ils ont envie de faire bien. Ça se voit qu'ils ont aussi...
carrément, big up pour le casting.
Ouais, l'acteur qui joue Aang, je le trouve vraiment adorable, quoi. Envie de lui croquer les joues. Et vraiment, ça se voit qu'ils sont fans. Et je sais parce qu'ils ont dit en interview qu'ils adoraient la série, sauf l'acteur principal qui a vu la série, je crois, 26 fois pendant le tournage. En fait, c'est leur enthousiasme qui m'accueille.
D'ailleurs, c'est peut-être l'un des points communs juste avec One Piece, sur l'enthousiasme des acteurs et la fraîcheur de ces nouvelles têtes qu'on ne connaît pas, mais qui sont vraiment fans, et comme le personnage de One Piece, là.
Luffy,
voilà.
Oui. Ah ouais, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer à la fois les acteurs de One Piece et les acteurs d'Avatar, et j'ai eu la même énergie de deux côtés. Donc, c'est pour ça que je me suis fait cueillir dès le début par leur prestation. Après, c'est un peu redescendu dès le deuxième, et après, c'est un peu remonté vers la fin. Le dernier épisode est vraiment très, très bien. Pour le coup, ça finit très, très bien, ça donne envie de voir la suite. Mais il manque le côté épique. Il manque un petit truc en plus qui fait que ça en fait une très bonne série. Malgré tout, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec l'univers et ça s'adresse autant aux fans qu'aux non-fans. Et ça, c'était le point le plus important. C'est vraiment, dans le cadre d'une adaptation, savoir à qui on s'adresse. Et là, ils ont mis des petits easter eggs pour ceux qui sont fans. Ils prennent le temps de développer et d'expliquer l'univers pour ceux qui ne connaissent pas. Donc toi, c'est un truc qui ne t'a pas plu. Bon, c'est un truc qui ne m'a pas dérangée parce que j'avais vraiment aucun souvenir du dessin animé. Globalement, je lui mettrais un 6 sur 10, je pense.
Tu disais quand tu as pris la parole que le premier épisode était propre, donc propre dans le sens c'est carré, c'est bien foutu là. Et moi, c'est un des défauts que j'ai trouvé, c'est que c'était trop propre.
Ouais.
Dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une tache de boue sur un costume, il n'y a pas un fil qui dépasse, il n'y a pas quelqu'un qui a des chicots pourris, ou, enfin la vie quoi. Et en fait, on a l'impression que c'est un cosplay à 120 millions de dollars. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça ou pas?
Non, complètement, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense que le problème vient aussi de cette volonté de tellement copier à l'animé qu'en fait ils ont peut-être oublié de l'adapter un petit peu, c'est-à-dire que dans un live action en fait on sent qu'ils voulaient faire plus sérieux, on sent qu'ils voulaient faire plus sombre, mais ils sont pas allés jusqu'au bout de cette idée. C'est-à-dire que déjà dans l'esthétique, oui, on est complètement plus sombre que l'animé, mais en fait ils auraient pu, comme tu dis, salir un petit peu plus les costumes. Quand tu prends des explosions, tu salis ton visage. Quand tu te bats, tu te prends de la poussière, des gouttes de sang. Et là, je pense que là où l'animé en fait pouvait se permettre, comme c'est un dessin animé, il pouvait se permettre. Enfin, on n'entend pas non plus ça de l'animé que du coup les couleurs soient vives et que du coup les costumes, les personnages soient propres sur entre guillemets. Après, une bataille, que là du coup c'est vrai que ça enlève un petit peu de réalisme, on va dire, sur le live action.
J'ai pas grand chose à dire.
Par contre, les easter eggs, il y en a plein, et c'est trop bien. Et notamment, enfin, moi j'ai adoré, je pensais pas le retrouver, c'est le vendeur
de choux.
Ouais, le vendeur de choux, c'est incroyable qu'il l'ait gardé, parce que ça, beaucoup dans l'animé, ça m'avait marqué.
Il y a même son affiche.
Oui.
Je sais pas si vous avez vu
et
ça, il a son affiche du personnage.
Aussi, et l'acteur, c'est celui qui fait la voix dans l'animé.
Trop bien.
Et oui.
Ah,
ils ont pris l'acteur, le comédien de doublage du dessin animé. Ça, c'est cool.
Donc voilà, vous l'avez compris, on est à la fois dans le, comment dire, dans la, je vais pas vous mettre dans la case fanitude, mais en tout cas vous avez apprécié le spectacle qui est vu avec des réserves. Et en fait, la série, elle divise un petit peu. Alors, j'ai noté quelques éléments qui font que ça divise. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Le premier, je crois que c'est toi, Andou, qui en parlait sur le côté de Hang, qui était donc un enfant. Plutôt dans l'animé, avec toute la joie de vivre que ça apporte. Et là, j'ai vu passer pas mal de gens qui disent « Mais quelle tête à claque !» Le gars, il a 12 ans, il donne des leçons à tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça, que justement, le héros qui est censé porter le truc devient un peu insupportable?
Ça, c'est toujours un risque quand on prend un acteur enfant. Hein. C'est que soit on adore, soit on déteste. C'est que ça divise en général le public. Hein. C'est que ce soit pour Avatar ou n'importe quel film ou série... Il y a un gamin qui est à l'écran, ça peut soit on a envie de le claquer, soit on fait oh il est trop mignon. Et là il y a les deux en fait. Mais moi je sais pas, je trouve qu'en fait les épisodes sont assez inégaux parce que ça dépend aussi des réalisateurs, comment est-ce qu'ils dirigent leurs acteurs. Et effectivement des fois Hang il va passer de scènes où tu fais waouh le gamin il gère, et puis d'autres fois où il va cabotiner un peu, tu vas faire ah c'est dommage.
Moi, je trouve que c'est dans c'est peut-être dans le rythme. Enfin, moi, un des. Enfin, alors pour le coup, moi, j'ai beaucoup aimé la série, sauf dans l'écriture des personnages, où du coup, je trouve l'écriture et le montage. Enfin, les deux sont un peu liés. C'est en gros dans le rythme des dialogues et dans les rythmes des plans. Il y a un truc qui marche pas, c'est que ça va beaucoup trop vite. Et notamment, du coup, là où dans l'animé, ce qui marchait avec Hang, c'est justement ce côté enfantin, mais qui a un poids en fait sur lui et qui le comprend au fur et à mesure. Là, en fait, c'est plan sur plan. Il va passer du gamin inconscient à au sud après, paf, ah, oh, je dois sauver la planète. Et tout. Du coup, en fait, ça marche pas. En fait, il faut laisser le temps à cet enfant, enfin au personnage, d'avoir des émotions et après d'avoir une rupture émotionnelle en fait. Et c'est pareil pour les spectateurs. Moi, notamment, il y a un épisode où que j'attendais beaucoup, c'est Omashu. Et au Machu de cours, je dis 10 sur 10, pareil pour l'ambiance, parce que franchement, comment ils ont recréé la ville, je trouve ça excellent. Par contre, la scène.
C'est la ville de la Terre.
C'est la Terre, ouais. Ouais. Par contre, du coup, la première scène où du coup, on découvre Bumi et qu'on apprend qu'en fait, c'est son ami, et bien en fait, dans l'animé, il se passe beaucoup d'épreuves avant qu'il retire son masque, en fait, Bumi. Que là, en fait, dès le début. Enfin, quand il arrive dans la salle du trône, en 5 minutes, Bumi se révèle. Hey, tu te rappelles pas de moi? Et je fais ben non, les gars. Enfin, ce qui marchait justement dans cette partie de l'animé, c'est que au début, Bumi il embête vraiment, 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 vraiment Hang, pour qu'à la fin, il fait hey, mais moi, tu te rappelles pas? C'est Bumi, celui qui aime faire des jeux. Et là, du coup, t'as un sentiment, t'as vraiment plus d'émotion en fait. Donc c'est dans ce sens-là où je critique un petit peu le rythme à la fois dans l'écriture des personnages et des plans.
Non, c'est très beau c'est super intéressant.
Je laisse des blancs au cas où vous voulez intervenir.
Super intéressant.
Parmi les autres personnages, alors il y a ton chouchou.
Ah, Zuko.
Zuko. Qui, je pense, là, pour le coup, est une vraie réussite de la série. Et, aussi bien Zuko et la relation avec son oncle.
Complètement. Et d'ailleurs, une des réussites de la série aussi, c'est qu'ils ont adapté même les noms. C'est-à-dire, ils ont pris les mêmes noms. Ah, voilà, c'était ma blague.
Les mêmes noms.
Ils ont gardé les mêmes noms. Ah, c'est fort c'est pour fort. Une adaptation.
Je ne comprends
pas. Voilà. On la coupera au montage.
Non, mais on la coupera au montage. Hein.
En tout cas, personnage extrêmement émouvant et dans lequel, là, on sent plein de. Comment dire,
de nuances.
Je me tourne vers Shaima qui est bilingue, des layers, tu sais, comme un oignon qu'on pèle. Voilà, non, on sent différentes couches et différentes nuances chez ce personnage. Moi, je l'ai trouvé extrêmement touchant, Zuko.
Complètement. Et d'ailleurs, j'ai tellement envie de voir ce qui va se passer dans les autres saisons parce que, alors, en plus, pareil, moi, j'ai beaucoup plus aimé la suite. Parce que c'est un petit peu comme c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux où voilà la communauté de l'anneau ça pose vraiment les bases et après ils jouent avec et on va partir vraiment très très loin et je trouve que le personnage de Zuko c'est un peu comme du bon vin c'est qu'il va prendre beaucoup de goût au fur et à mesure des saisons donc sans en dévoiler sans trop spoiler ce qui va se passer après c'est pour moi le personnage le plus intéressant. Parce que justement, parmi ses couches, il a la rédemption, il a l'exil, il a le poids de son père
oui,
sur
le
lui,
rapport
le
père,
rapport
ouais.
au père, il a le rapport au père, il a le rapport à un père adoptif qui lui a perdu son fils. Enfin, du coup, voilà, Hiro et Zuko, pour moi, c'est vraiment les deux personnages les plus touchants en fait.
Ouais, c'est le cœur émotionnel du film. Et puis il y a deux autres personnages, donc il y a Katara et Sokka. Et Sokka, pardon. Sokka, sur lequel il y a pas mal de réserves, dans le sens où il a beaucoup été changé par rapport à l'animé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a gêné? Pour dire le gros mot à la mode, il aurait été wokisé. Avec, en fait, parce qu'il est, assez misogyne, de ce que j'ai cru comprendre dans la version animée.
Ah!
Alors oui, je me rappelle, il fait un peu quelques blagues, notamment avec. J'allais dire avec Sushi. avec Suki, ouais, sur l'île de Kyoshi. Je me rappelle, ouais, il faisait pas mal de blagues, mais pour le coup, à l'époque, ça m'avait pas choqué tant que ça.
Je pense que c'est un non-sujet. Oui. Moi, le principal reproche, c'est qu'il sert pas à grand chose. Il est juste là pour faire des blagues, quoi, pour détendre l'atmosphère. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, ils aiment finir les scènes sur un truc plus léger. Exactement. C'est toujours lui, en fait.
Oui, je suis d'accord. Ouais.
Soit une punchline, soit une mimique, comme tu disais.
Ce qui était bien avec le. Enfin, moi, pareil, j'ai pas l'impression que ça m'avait choqué, mais c'est parce que ça servait l'histoire. C'est que sa sœur, justement, devait. Enfin, on apprend qu'elle doit aussi se détacher de ça. C'est que quand elle arrive au. Je sais pas si je peux le dire à la fin de la saison.
On peut le dire. Okay. Ça date de 2008.
Oh, ça va, ouais. Quand elle arrive au pôle Nord, en fait, elle se retrouve avec des vrais maîtres de l'eau qui lui disent: bon, bah, comme t'es une femme, tu vas apprendre à guérir, tu vas pas apprendre à te battre. Et c'est un peu, justement, la pensée de la tribu, de genre, bon, bah, t'es une femme, tu te bats pas. Et du coup, elle doit se battre littéralement pour prouver qu'elle peut faire aussi autre chose et sortir de ces clichés où elle a grandi avec sa tribu, avec son frère qui lui répète ça toute la journée, tout ça, machin. Et ça, je trouve que ça, du coup, ça souligne quelque chose de plus fort chez elle. Et ça aide à faire avancer l'histoire. Donc, le fait qu'il soit un peu sexiste pendant l'animé, j'ai pas remarqué qu'il y avait quelque chose de particulier.
Ouais, moi, je l'ai trouvé beaucoup moins fun que dans l'animé, du coup. Mais c'était voilà, dans leur désir de vouloir faire un truc plus sérieux. Donc, mais du coup, je trouve que voilà, ils ont essayé de jongler entre du sérieux et du fun. Et je pense qu'il aurait peut-être fallu choisir une direction pour ce personnage qui, du coup, est peut-être un petit peu bancal parce que il est peut-être trop sérieux. Du coup, quand il sort une vanne, non, c'est pas le genre de phrase qui sortirait de quelqu'un qui a le poids de toute une tribu, par exemple, qui remplace le chef de tribu, par exemple, c'est pas lui de faire des vannes, tu vois. Donc, comme ils insistent un petit peu sur ce point-là, du coup, peut-être qu'il aurait fallu aller plus dans une direction que dans une autre, quoi.
Et les amourettes à chaque épisode, c'était parce que comme là il voyage presque, enfin il découvre soit une nouvelle ville, soit on va dire un nouveau monde ou un nouveau village à chaque épisode dans la série Netflix. On a l'impression qu'il tombe à chaque fois amoureux de la princesse locale en deux regards. À chaque fois, c'est très intense. Est-ce que c'est quelque chose qui était dans l'animé ou c'est quelque chose de très ado teen Netflixien qui a été injecté
Moi, je pense que c'était moins. C'était peut-être moins dans l'animé. J'ai un doute sur celui-là.
Après, oui. Si ça vous a pas marqué, c'est qu'il n'y avait pas. Après, moi, je trouve ça dommage dans la série Netflix. C'est pas nécessaire, quoi.
Oui, complètement.
Et c'est pas développé. Enfin, c'est. C'est des personnages que, par exemple, Jet, on le voit dans un épisode ou deux, après on ne le revoit plus, donc je trouve ça dommage de...
Oui, parce qu'ils ont voulu synthétiser Jet dans l'épisode de Machu, et en fait, oui, je ne suis pas d'accord.
Il arrive après dans mes souvenirs.
Normalement, il arrive après, ouais. Et en fait, la trahison, il revient, mais après. Chut, m'a rien dit. Et du coup, tu vois, pareil, ça fait partie des points de rythme trop rapide, où en fait, du coup, ils essayent vraiment de caser Jet, mais en fait, la trahison de Jet, c'est vraiment un tournant, en fait, dans l'histoire de l'animé. C'est le moment où Katara vrille un peu, justement, et où elle est passée de la soignante à non, c'est là, elle était plus en colère après la trahison de Jet, il me semble. Et là, du coup, je trouve que oui, Jet, on le voit que dans un épisode. Ils ont raccourci son arc, alors qu'il est très intéressant, ce personnage aussi.
Et j'avais un petit peu charrié Shaima là-dessus en lui disant, alors ce comédien qui s'appelle, je vais bien le dire, hein, Ian Ousley,
oui,
qui est canadien, qui est champion de taekwondo, oui, notamment. Est-ce que c'est pas un peu le nouveau Taylor Lautner en termes de talent ? C'est-à-dire quelqu'un qui joue pas très très bien.
Je pense que déjà j'ai une théorie, c'est que pratiquement tous les acteurs peuvent être bons en fonction de qui le dirige.
C'est pas faux. Marion Cotillard peut en témoigner dans Dark Knight Rises.
Exactement. Donc je pense que là il a été sous-exploité. C'est vraiment l'un des. Regardez, on parle de tout le monde sauf de lui. Donc c'est la preuve que c'est un personnage qui est sous-exploité, un acteur qui est sous-exploité. Donc j'ai vraiment, s'il vous plaît, Netflix, renouvelez Avatar pour qu'on puisse le voir un petit peu plus. Alors non, ce n'est pas le nouveau Taylor Lautner. Je ne sais pas si tu dis ça physiquement ou aussi en termes de jeu, mais il a de quoi faire parce que comme il a dit, c'est que comme t'as dit, pardon, c'est que c'est un expert en, je ne sais plus.
En taekwondo,
c'est un champion. Il a ceinture noire et le mec, il est là, il met juste des mandales, quoi. Enfin, limite, il a baissé son niveau pour la série, donc il y a de quoi faire. Je pense qu'il peut bien jouer, il peut nous montrer des bonnes scènes d'action. Après, je ne sais pas si dans l'anime, Sokka se bat, je sais.
Oui.
Donc il y a de quoi faire. Taylor Lautner, non, désolé.
J'espère qu'il dansera, parce que Sokka Dance, c'est la référence des années 90. Seuls les vieux de la vieille qui écoutent ce podcast comprendront. Je les salue. Et merci de faire vivre l'esprit de la Sokka Dance. Dernière question sur les limites, ou en tout cas les critiques qu'on peut trouver. Alors celle-là, elle vient de moi. J'ai eu l'impression, au-delà, encore une fois, de leur avancée, de tout ce qu'ils découvrent et tout ça, que c'est un peu 8 fois le même épisode. Et de faire un peu du surplace, notamment avec Katara qui apprend à faire des boules d'eau, et au bout d'un moment, ça fait 7 épisodes que tu fais des boules d'eau, va peut-être falloir avancer. Lui qui lui apprend à faire des ricochets au bord de l'eau, l'autre qui tombe amoureux à chaque fois qu'il tombe dans un nouveau village, j'ai l'impression de voir 8 fois la même heure. Est-ce que j'exagère en disant ça ou pas ? Vous pouvez dire oui.
je pense parce qu'ils n'avaient pas le temps de... Comme Andrew l'a expliqué, c'est qu'ils vont vite, très très vite. Ils mélangent les arcs. Ils mélangent les histoires, les intrigues. Du coup, tu as l'impression que ça... En fait, ils vont dans un pays... C'est pas une nation. Ils vont dans une ville.
Ils vont dans une ville ou une île.
C'est un pays ou une ville ?
C'est une ville.
En fait, c'est qu'ils vont dans une ville dans chaque épisode. Et du coup, ils rencontrent l'ancien avatar. Ils discutent avec l'ancien avatar. Ils découvrent un truc sur son passé. Il apprend des nouveaux trucs. Donc oui, ça se ressemble. Mais à chaque fois, je sais pas où est-ce que je vais, etc.
Il y a du nouveau quand même, c'est ça que tu voulais dire.
Mais il y a du nouveau quand même.
Il y a un peu de nouveau. Alors, du coup, c'est dommage parce que pour le coup, dans l'animé, c'est pas grave si à chaque fois on se réfère à l'animé.
Il n'y a aucun souci.
Du coup, dans l'animé, pour moi, justement, chaque ville ou chaque épisode racontait vraiment une histoire différente. En tout cas, enfin, moi, c'est comme ça que je l'avais vécu à l'époque. Et je pense que. Je pense que c'est justement à cause des enjeux qui, à chaque fois, ils sont obligés de remettre l'enjeu dans chaque épisode. C'est ce sentiment de répétition-là, je pense, qui a dû te perturber un peu. Et par exemple, la rencontre avec Roku. En fait, dans l'animé, quand l'avatar rencontre enfin cet ancien avatar, quand Aang rencontre cet ancien avatar, c'est vraiment un tournant pour lui. Et c'est limite le moment où il arrête de faire des bêtises, en fait. C'est qu'avant, il était toujours justement sur le ton de la légèreté, il était fun, il résolvait les problèmes, mais toujours sans être vraiment sérieux. Quelques flashbacks lui rappellent ce qui se passait, mais c'est vraiment à la rencontre qu'il a compris que tous les avatars étaient en lui. Là, il switch un petit peu. Et je pense que là, le truc, c'est que la rencontre avec Roku était limite semblable à la rencontre avec l'avatar de l'île de Kyoshi. Je ne me rappelle plus son nom, mais c'est la
Kyoshi.
C'est Kyoshi, oui. Et avec l'avatar Kyoshi, ouais, c'est ça. Donc, et du coup, c'est ça. Là, du coup, là, t'as l'impression de voir deux fois la même rencontre, alors que dans l'anime, non, c'était beaucoup plus fort, je trouve.
Roku qui n'a rien à voir avec la série Super Sex, qui elle est sur Roku. Ne vous trompez pas si vous décidez de le montrer à vos enfants. Pour terminer ce podcast, qu'est-ce qu'on attend de la saison 2? Qu'est-ce que Netflix doit changer, faire mieux? Ou est-ce qu'on continue pareil? Vous, quels sont les... ce que vous aimeriez voir en saison 2? Sachant qu'en gros, une saison 2, là je me tourne vers Shaima, experte de la production Netflix, c'est dans 2 ans à peu près.
Je sais pas, peut-être 2-3 ans, comme tu dis.
Parce qu'ils vont vieillir, tous.
En fait, les scénarios sont tout prévus. Justement, il me semble que alors, l'animé se déroule sur une année, donc c'est 3 saisons, 61 épisodes. Là, dans le dernier épisode, quand Ozai apprend l'arrivée de la comète de Sozin, il lui demande quand est-ce que ça va arriver, il lui dit bientôt. Comme ça, ils n'ont pas de temps, c'est pas comme si elle arrivait dans 6 mois. L'idée de faire un flashback, sachant que les acteurs ont tourné ça il y a 2 ans. L'interprète de Hong, par exemple, Gordon Cormier, il avait 11 ans. Maintenant, il en a 14, donc il a déjà changé physiquement. Il a aussi mué, c'est impressionnant à voir. Donc, ils peuvent faire des flashbacks en se disant que ça ne va pas se dérouler sur 1 an, par exemple, sur 2-3 ans. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Moi, ce que j'aimerais voir dans la saison 2, du coup, qu'il développe un petit peu plus les personnages. Notamment certaines intrigues. Je sais qu'autour de Jet, il y avait toute une histoire de rebelles. Je sais plus c'est quoi le nom.
La résistance, ouais.
La résistance, ça, c'est un truc super intéressant qu'ils ont vraiment balayé en un claquement de doigts. Je veux juste qu'ils restent en termes de qualité. Je veux juste qu'ils continuent à garder cette qualité dans les combats. Je sais que c'est une série qui rend beaucoup hommage aux arts martiaux chinois qu'on appelle le Wushu. C'est-à-dire que chaque nation a sa propre technique de combat.
Moi, je peux en parler. Moi, je suis en train de faire un Mac dessus.
Non, mais je trouve ça vraiment passionnant. Vraiment, parle-en parce que c'est un truc que les gens doivent savoir.
Donc, j'aimerais parler de quelque chose dont nous n'avons pas encore évoqué. C'est les combats qui sont assez bien réussis dans cette série. Il faut dire que chaque nation a un style d'art martial différent. C'est que, alors, pour l'eau, c'est le tai chi. Parce que c'est le mouvement de la vague, souvent, qui imite le mouvement de la vague. Ah pardon, je croyais que tu voulais dire quelque chose.
Je l'ai qui saute.
Okay. Pour le feu, c'est le Shaolin Kung Fu, je crois que c'est comme ça, qui sont des mouvements assez droits, directs et souples. Pour la terre, c'est le Hungar, qui est une position assez basse, du coup, proche de la terre. Et pour le vent, c'est le bagua. Et le bagua, c'est un art martial qui est une stratégie d'évitement et qui se sert de la force de son adversaire. Donc c'est beaucoup de tournois sur soi-même. Donc voilà, il va y avoir un mag qui va sortir. Enfin, il va y avoir une vidéo qui va sortir. Je vous encourage à la regarder. c'était quelque chose qui existait dans l'animé et du coup qui est repris dans la série Netflix. Et ça, c'est un gros avantage de faire un live action là-dessus, c'est que ça permet de mieux voir les mouvements, ça permet de mieux se rendre compte, parce que même si c'est animé, c'est pas exactement la même chose quand on voit surtout des champions de taekwondo ou des champions de kung-fu.
De bagua.
Enfin, pas des champions de bagua, mais en tout cas des champions qui réalisent vraiment qui font la vraie chorégraphie de ces arts martiaux. Ça, c'est la série Netflix, permet de voir ça, et ça, c'est vraiment, vraiment bien fait, quoi.
C'est marrant que du coup l'art martial de l'eau c'est le bagua.
Non, c'est le tai chi.
Ah pardon, tant pour moi.
Oui,
non, je confonds. Non,
t'allais
je confonds.
Faire une blague.
Non, je confonds avec badois.
Oh. Il est en forme.
Agua.
Et juste pour terminer, toi tu attends encore plus de combats en fait, au cas que ça pousse ce
curseur
là, parce qu'on est déjà pas mal servi quand même.
Mais en fait je trouve que les combats sont pas hyper bien montés. Si je peux mettre une petite critique. On aimerait que ce soit un petit peu mieux fait. Le réalisateur parlait du fait qu'il voulait faire, enfin qu'il faisait des hommages au film de Jackie Chan. Oui, vite fait, mais en fait, en gros, c'est que ça serait bien pour la saison 2 qu'ils mettent plus, qu'ils montent pas de façon aussi, qu'ils font des cuts aussi tout le temps. On arrive à moins voir les gestes, ça fait des gestes moins fluides.
Des plans séquences, quoi.
Ça serait bien de faire des plans séquences et de laisser les acteurs vraiment jouer le combat, quoi.
Surtout qu'en plus, ça porterait aussi beaucoup aux effets spéciaux qui sont top.
Exactement.
Donc de les voir, plus les voir et moins en cut-cut, ça peut que mettre en valeur le travail des superviseurs d'effets spéciaux, je trouve.
Ouais.
Donc plus de personnages fouillés, en tout cas de fouiller plus les personnages, de faire mieux niveau combat. Est-ce que toi aussi, tu as une recommandation pour la saison 2?
Oui, moi j'ai une recommandation pour la saison 2. Et ça rejoint un peu les personnages, mais ça va juste un petit peu la préciser. Moi, je veux voir Toph.
Ah
Toph,
oui.
Toph, j'ai trop envie de voir comment ils vont la faire. En fait, c'est une maître de la Terre qui est aveugle et qui est trop badass. Elle est énorme dans l'animé parce que elle est à la fois badass, mais à la fois elle a de la répartie et elle arrête pas de casser angle. Enfin, elle est géniale. Et donc voilà, j'attends de voir comment ils vont traiter Toph.
Et surtout qu'elle elle marche pieds nus.
Elle marche
pieds nus. Elle a besoin de sentir la Terre. Comme elle est aveugle, en fait, elle se sert de son pouvoir pour voir, en fait. Donc, elle se sert du fait qu'elle soit tout le temps pieds nus pour voir les choses, pour ressentir les choses. Ça, je trouve ça trop stylé aussi. Ouais.
Et comme les maîtres de la Terre, le premier maître de la Terre, c'était une taupe. Du coup, elle, c'est un petit peu l'incarnation. Donc, c'est vraiment la plus grande maître de la Terre, en fait.
Elle est au taupe, quoi.
Taupe modèle.
J'adore.
T'es forte, hein.
Ouais, c'est trop bon. Voilà. Et peut-être, si c'est possible, peut-être un peu plus de suspense. Je trouve que la première saison manquait cruellement. Là où l'animé, par exemple, Ozai, dans l'animé, on le voit quasiment pas. En fait, pendant les deux tiers de la première saison, on voit la salle du palais, et en fait, on entend une voix. Et jamais on le voit. Et en fait, du coup, on entendait que sa voix qui parle et tout. Et en fait, on découvre vraiment son visage qu'à la fin de la saison 1. Et là, je trouve que dans la série, il le montre beaucoup trop tôt. Et donc, je trouvais ça un petit peu dommage. Mais bon, ce personnage, normalement, va être aussi... peut être iconique dans la suite, surtout quand il va entrer sur un champ de bataille, ça va être énorme. Donc, mais voilà, peut-être un petit peu plus de suspense, prendre plus son temps sur les prochaines saisons.
Pas mal de recommandations intéressantes. On précise que Ozai est joué par Daniel Dekim, que vous avez vu notamment dans Lost, Hawaii Five-O ou New Amsterdam, entre autres, comédien qu'on aime beaucoup. Parmi les comédiens qu'on peut citer, parce que c'est vrai qu'on avait cité le Quatuor, mais il y a Oncle Iroh qui est joué par Paul Sun-Yu Lee, qui là est en train de se faire une bonne place dans la pop culture parce qu'on le voit dans Mandalorian et dans Ahsoka. Donc il joue le fameux pilote de... Alors c'est plus la rébellion à ce moment-là de l'histoire, mais en tout cas il est pilote de X-Wing et il maintient la paix dans la galaxie. On a Ken Leung dont on a parlé, et puis des fois il y a des petites apparitions. Il y a Danny Pudi, il y a Amber Midhunter qu'on avait vu dans Prey, qui apparaît dans un épisode. Tablin Tomita, que j'adore, qui apparaît dans un épisode aussi. A Martinez de Santa Barbara, qui joue un des maîtres de l'eau, incroyable. Et George Takei de Star Trek, incroyable.
Avec une voix.
Oui, il fait une voix, mais en tout cas, voilà, au-delà des quatre jeunes, il y a vraiment voilà, plein de visages qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, en tout cas au premier plan. Et ça, c'est peut-être voilà, un des points positifs de la série, c'est que voilà, on est loin du whitewashing du film de Shyamalan, c'est qu'on voit autre chose. Et ça, c'est plutôt bien. Spotlight spécial Avatar, c'est terminé. Merci Shaima, merci Constance, merci Andou pour leurs avis éclairants, tels des flammes dans la nuit. J'ai tiré jusqu'au bout le truc du feu. Hein. Et merci à Lauriane pour la réalisation, tu as été formidable. Vous pouvez retrouver la série live ainsi que l'intégrale de la série animée, c'est important, sur Netflix. Comme ça, si vous ne pouvez pas attendre, eh ben, vous pouvez voir les trois saisons sur Netflix. Pour voir ou revoir le film ou ne pas le voir, en tout cas, c'est sur Paramount+. Vous pouvez suivre l'actualité de la série et l'actualité streaming en général sur Allociné grâce à ce que fait Shaima et toute l'équipe du site. Et puis, retrouver nos podcasts sur Spotify, Deezer, Apple ou Acast. Pardon. N'hésitez pas à partager, noter, commenter et à vous abonner, vous connaissez. Vive la paix entre les nations, à notre époque, c'est important. Et à très bientôt pour un nouveau podcast.
Bisous.
Salut.
Allociné.